Et nous allons passer une semaine gourmande. Nous sommes à Trégnac, en Corrèze, et nous sommes en compagnie de Bernard Bess, qui va nous servir de guide tout au long de cette semaine. Nous sommes au cœur de la chocolaterie et pâtisserie également, Bors et Bess. Avant de découvrir toute cette fabrication et mettre tous nos amis en appétit, un mot de l'entreprise. Bors et Bess, c'est une histoire familiale qui évidemment est chère à votre cœur et qui nous ramène quelques années en arrière.
Effectivement, puisque c'est une entreprise qui a été créée par mon arrière-grand-père, il y a maintenant un peu plus de 100 ans. Et cette entreprise s'est transmise, de père en fils depuis 1909.
C'est familial, mais c'était une évidence tout de suite de reprendre le flambeau.
Oh, si je vous disais que j'avais pas eu d'hésitation, je vous mentirais. Il se trouve que lorsque j'étais beaucoup plus jeune, c'était un métier dont je ne voulais pas entendre parler. Pourquoi ? Parce que je n'en voyais que les inconvénients. Notamment la présence constante au sein de la fabrication, c'était quand même un travail un peu contraignant, et lorsqu'on est jeune, on voit que le mauvais côté de la chose. Et je dirais que c'est vers l'âge de 14-15 ans que j'ai pris conscience que c'était le métier que j'avais envie de faire.
Quelques années plus tard, pas de regret.
Aucun regret, non, je pense pas m'être trompé. Au contraire, on découvre sans arrêt des nouvelles méthodes, également des nouvelles origines de cacao. Hein. Maintenant, beaucoup de pays se mettent à cultiver les cacaoyers. Et le côté intéressant, c'est qu'au quotidien, eh bien, on va être étonné par des goûts de cacao qui vont nous arriver. Et on va voyager, puis on va inventer peut-être des nouvelles recettes. Lorsqu'on va également dans les pays producteurs, on va s'imprégner de ces odeurs. Donc non, je regrette vraiment pas du tout d'avoir fait le choix de continuer l'entreprise familiale.
Alors on voit que vous avez l'amour du métier, mais avant tout l'amour de cette matière cacao. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir cette partie ludique ici au comptoir du chocolat, de montrer, d'expliquer un petit peu les origines de ce produit.
Oui, parce que si vous voulez, le consommateur aujourd'hui a besoin de savoir d'où vient le produit qu'il consomme. Et le chocolat, comme beaucoup d'autres produits, est un petit peu galvaudé. Prendre conscience aux consommateurs que le chocolat, c'est un produit noble, qui se cultive dans des pays qui sont pas forcément très riches. C'est un travail au quotidien, c'est un travail manuel. Hein, il y a pas de mécanisme pour récolter les cabosses. Donc, toute cette partie est intéressante, je pense, pour le consommateur. Il faut quand même pas oublier que on n'a pas découvert le chocolat. Hein. Le chocolat était déjà utilisé à l'époque par les Aztèques qui s'en servaient comme boisson. Donc on n'a rien inventé, juste on a amélioré, du moins peut-être amené au goût d'aujourd'hui les saveurs et les arômes.
C'est notre deuxième escale ici au comptoir des chocolats pour évoquer cette chocolaterie Bors et Bess. Bernard Bess nous sert de guide. Nous sommes ici à Trégnac en Corrèze, on le rappelle. Vous recevez de la pâte de cacao, mais avant que ça devienne de la pâte de cacao, il y a évidemment de nombreuses étapes qui sont faites bien plus loin que la Corrèze.
Oui, oulala, oui, bien plus loin que la Corrèze, dans des pays où il fait nettement plus chaud.
Surtout en ce moment.
Nous recevons la pâte de cacao. Cette pâte de cacao, elle est issue de quoi ? Eh bien, elle est issue tout simplement de la fève de cacao qui est contenue dans la cabosse. Donc, cette fève, elle va être fermentée. C'est 7 à 8 jours de fermentation dans des bacs en bois, recouverts très généralement de feuilles de bananier ou de palmier. Que cette fève, par la suite, va être séchée. Alors, c'est un travail tout à fait traditionnel hein, qui se pratique, puisque le séchage se fait naturellement au soleil pendant 7 à 8 jours. Ces fèves sont constamment brassées, hein, aérées. Suite à ce séchage, il y aura une partie très 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 importante, c'est la torréfaction. La fève de cacao sera torréfiée comme le café, et c'est la torréfaction qui va dévoiler ses arômes. Cette fève va être ensuite broyée. On va chauffer la masse et va s'échapper de ce broyage deux matières, la matière sèche qui sera la pâte de cacao et la matière grasse qui sera le beurre de cacao. Donc par simple pressage, comme la masse est chauffée, le beurre de cacao deviendra liquide et il nous restera d'un côté la pâte et de l'autre côté le beurre de cacao. Donc nous, on va travailler la pâte de cacao. Alors pourquoi nous avons choisi de travailler la pâte de cacao et non pas à partir de la fève? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le consommateur veut en bouche un chocolat qui soit très finement broyé. Et à notre niveau, l'importance d'un broyeur aussi performant serait un petit peu désuet. Voilà. Cette pâte de cacao, il nous suffira de rajouter tout simplement à l'intérieur du sucre, et du beurre de cacao, qui est à hauteur de 10 à 15% pour obtenir un chocolat noir. Alors, il faut savoir que les pourcentages qui apparaissent sur les emballages de chocolat, 70, 80, 90%, c'est un repère pour le consommateur. Prenons un exemple, 70% de cacao, les 30% qui restent, ce sera du sucre. Plus le pourcentage sera élevé, plus le chocolat sera amer. Voilà pour la composition du chocolat noir. Le chocolat au lait, c'est un mélange de pâte de cacao, mais dans lequel il y a beaucoup moins de pâte de cacao, bien évidemment, du lait en poudre, du beurre de cacao et bien évidemment du sucre. Donc c'est un chocolat qui est beaucoup plus sucré. Et il nous reste enfin un produit qui s'appelle du chocolat, mais qui pour moi n'est pas forcément du chocolat, c'est le chocolat blanc. Il faut savoir que le chocolat blanc n'est constitué que de beurre de cacao, du sucre et de lait en poudre. Donc c'est un produit qui est très riche, très sucré et qui n'a aucun intérêt gustatif hormis si l'on aime vraiment la sucrerie. Alors, c'est vrai que dans le Limousin, les consommateurs sont assez avertis puisqu'ils aiment le chocolat assez puissant. On tourne aux alentours entre 72 et 80% de la consommation.
Et notre troisième rendez-vous ici, du côté du comptoir du chocolat avec Bernard Besse, notre guide à Trégnac. On va parler des différentes sortes parce que le chocolat est une très grande famille. Avec, pour commencer, peut-être ce qui est le plus commun, en tous les cas tout au long de l'année, c'est la fameuse tablette de chocolat qu'on fabrique ici. Quand je dis la tablette, je suis gentil puisqu'il n'y a pas qu'une sorte de tablette de chocolat.
Non, effectivement, notre gamme est assez large puisqu'on a actuellement une quarantaine de tablettes différentes. Alors dans ces tablettes, il y a aussi, je dirais, plusieurs familles. On va découvrir toute la partie tablette pure origine. Il faut savoir que le chocolat, suivant les pays producteurs, donnera des cacaos différents. Donc on va décliner tous ces pays producteurs en pure origine. Pure Venezuela, pure Madagascar, pure Ghana, pure Sao Tomé. Après, il y aura notre gamme chocolat lacté. On va mélanger plusieurs origines de cacao, puisque dans le chocolat lacté, ce que le consommateur va plutôt rechercher, c'est d'avoir des saveurs assez douces. Et puis, il y aura également notre gamme tablette de chocolat marbré, où là, on va mélanger, on va associer deux parfums. Alors là, elles sont un chocolat noir, mais dans lequel on va mettre un chocolat qui sera aromatisé, lui, soit à la menthe, soit à la cannelle, soit au fruit de la passion, soit à la fraise, au citron. Et on va travailler pour ça avec des infusions qui seront faites dans le chocolat.
Et quelle est l'association qui, à l'inverse, a été testée et qui vous a déçu, qui a été abandonnée ?
Si on peut parler d'association un petit peu hors norme, c'est lorsqu'on avait fait un voyage au Brésil. On avait découvert une origine de cacao qui était assez fumée, qui avait vraiment des notes fumées en bouche. Comme on était au Brésil, eh bien nous est venue l'idée de marier ce chocolat avec le tabac. C'était un mariage un petit peu osé, qui était assez surprenant, qui était pas mal, hein, je dois dire. C'était assez intéressant, mais peut-être un petit peu trop osé pour le mettre, je dirais, dans le circuit de la vente.
Puis il y a une autre façon, quand on est encore dans l'esprit du chocolat un petit peu comme ça, en fine couche, c'est les moulages qu'on va retrouver forcément pendant les fêtes, on pense à Pâques notamment, où c'est un travail très différent.
Oui, c'est un travail très différent, puisque la tablette se fait en une seule fois, on va garnir le moule entièrement de chocolat, alors que le moulage, lui, se fait par couches successives. Donc on va travailler dans des moules, dans du polycarbonate. Il faut savoir qu'au début du siècle, ces réalisations étaient exécutées dans des moules en métal.
Vous en avez quelques exemplaires de famille ici.
Voilà, quelques moules qui restent, je dirais, de la collection de mon arrière-grand-père. Et ces moules étaient donc en métal et l'intérieur de ceux-ci était entièrement en argent. Pourquoi en argent ? Parce que c'était une matière alimentaire, bien sûr, mais c'était également une matière brillante. Et il faut savoir que le chocolat prendra l'aspect de la matière avec laquelle il va rentrer en contact. Donc on va garnir notre moule, on va tapoter pour enlever tout l'excédent de chocolat pour qu'il ne reste qu'une fine pellicule de chocolat. On va le laisser cristalliser et on recommencera cette opération. Pour donner un petit exemple, un œuf qui fait 30 cm de diamètre aura 18 couches successives de chocolat. Donc c'est un produit qui est très long à faire. On pourrait se demander pourquoi on ne le garnit pas entièrement. Eh bien tout simplement, lorsqu'on va déguster ces moulages, toutes ces couches successives en bouche vont se séparer. Et comme elles sont très fines, elles vont fondre bien sûr très vite. Et c'est là qu'elles vont exploser en bouche et là qu'elles vont diffuser tout leur arôme.
Avant-dernier rendez-vous au cœur du chocolat avec Bernard Besse qui nous guide ici à Trégnac sur les secrets de cette gourmandise, tout au long de l'année, mais évidemment à plus forte raison pendant ces fêtes de Noël. On va parler des bonbons de chocolat avec tout un tas de déclinaisons.
Voilà, ce qu'appellent forcément les consommateurs. Les chocolats, nous, c'est une famille. Et ces chocolats, nous, on les appelle des bonbons de chocolat. Alors, il faut le savoir que dans cette famille de bonbons de chocolat, nous avons encore deux familles. Puisque nous aurons d'un côté les ganaches, c'est un mélange de chocolat, de crème fraîche et de sucre. Nous, notre intérêt, c'est de faire des ganaches avec, bien évidemment, encore ces fameuses origines de cacao. Après ces ganaches, on va pouvoir les aromatiser avec notamment des infusions en ce qui concerne la vanille, la cannelle, le thé. Nous allons le faire infuser dans la crème fraîche et cette crème fraîche va être imprégnée de ce goût et on va ensuite le mélanger délicatement avec le chocolat. On va le couler dans des cadres. Le lendemain, on va découper ces bonbons de chocolat et ensuite passera l'étape de l'enrobage, c'est-à-dire recouvrir ce cœur d'une fine pellicule de chocolat qui va lui donner une petite coque cassante et craquante qui va apporter tout le goût du chocolat. Et ensuite, on va avoir le fondant de la ganache qui va se développer en bouche.
Alors, on a parlé ganache et il y a donc une deuxième variété.
Et pas des moindres, qui est le praliné. C'est tout simplement un mélange de fruits secs et de sucre. Soit des amandes, soit des noisettes, soit les deux réunis. On va torréfier ces fruits. Alors là, je dirais que le choix des fruits et de leur provenance est également très important. On va choisir nos noisettes qui viendront du Piémont, puisque c'est une des régions qui fournit les meilleures noisettes gustatives au niveau de la confiserie. Les amandes, eh bien, on choisira des Marcona, qui ont en bouche une puissance d'arôme inégalable. On va les torréfier, on va les mélanger à un sucre cuit qui pourrait peut-être se représenter pour vos auditeurs comme du caramel. Et ensuite, on va laisser refroidir cette masse obtenue. Cette masse obtenue, on va ensuite la passer dans ce qu'on appellera une broyeuse. Une broyeuse, c'est tout simplement des rouleaux en granit. On pourrait pas travailler avec des rouleaux en métal parce que ça échaufferait le praliné. Donc on travaille avec des rouleaux en granit. Et au fur et à mesure des passages, eh bien, on va broyer de plus en plus fin, bien évidemment. Cette masse va s'échauffer naturellement et va faire ressortir la matière grasse des fruits secs et va donner un produit semi-liquide dans lequel il nous suffira de rajouter du chocolat pour lui donner une texture. Ce praliné va être comme la ganache coulée dans des cadres et le lendemain, pareil, on découpera ces pralinés et on les enrobera de la même façon que sont enrobés les ganaches précédemment.
Là, on est à côté de la machine qui permet l'enrobage notamment de ces chocolats, de la ganache, du praliné.
Voilà, c'est le seul matériel, je dirais, semi-automatique. Vous voyez que la position des bonbons de chocolat, comme le décor et le ramassage des bonbons, se fait manuellement. Quand on dit artisan chocolatier, c'est un métier vraiment très artisanal. On est très 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 loin des grands groupes chocolatiers qui ne mettent aucune passion dans les produits qu'ils fabriquent.
Et c'est déjà notre ultime voyage. Je sais que nous allons tristement quitter cet univers du chocolat sur ce dernier rendez-vous, mais je vous fais confiance pour ensuite passer à la phase pratique à la maison, toujours avec Bernard Besse qui nous sert de guide depuis le début de la semaine. Nous sommes toujours à Trégnac, ici, au cœur de la fabrication de ces chocolats Bors et Besse. Deux petites choses maintenant, on va peut-être donner des conseils tout simplement de conservation, de dégustation du chocolat.
Alors déjà, la première des choses, c'est ne pas mettre les chocolats au réfrigérateur, comme beaucoup peuvent le croire. Le chocolat, c'est un petit peu comme le vin. Le chocolat doit se déguster à une température qui oscille entre 18 à 20 degrés. Si vous mettez votre chocolat au réfrigérateur, vous allez tuer l'arôme et vous n'aurez pas en bouche la subtilité qui pourrait dévoiler. Après, le chocolat, ça se casse avec les dents, ça se croque avec les dents. On va donner 2, 3, 4 coups de mâchoire pour casser grossièrement le chocolat. Et après, on va le laisser fondre doucement sur les papilles. Et vous allez voir que, à partir de là, il va dégager tout son arôme, toute sa puissance, toutes ses subtilités d'arôme et de goût. Et c'est là où vous allez fondre de bonheur, si je puis dire.
On a parlé de mariage, peut-être l'occasion de parler de l'association. On fait souvent le petit peu l'onanisme des gourmands, le chocolat plus le café. Et là aussi, il y a des petites astuces, des bons conseils.
Alors c'est vrai que c'est un mariage très heureux, oui, parce que l'un va sublimer l'arôme de l'autre. Ça, c'est très reconnu. Il faut savoir que ce sont deux produits qui viennent pratiquement des mêmes pays, des pays chauds et humides. Donc c'est un bon mariage puisqu'ils poussent déjà au même endroit. Après, on voudra des fois associer le chocolat avec du vin, des alcools nobles. Alors là, je suis un petit peu plus réticent. Pour moi, c'est pas quelque chose de très subtil en bouche. Si j'avais un conseil à donner à vos auditeurs, lorsqu'ils consomment du chocolat, et surtout lorsque c'est des pures origines, c'est de l'eau. Je dirais, ça fait pas rêver beaucoup de boire de l'eau avec du chocolat, mais c'est pourtant la boisson qui va le mieux.
Merci de nous avoir fait partager cette passion, en tout cas ici. Et puis, on va inviter maintenant tout le monde à passer à la phase pratique et à découvrir, à déguster, se laisser porter par ce voyage chocolat.
Bah écoutez, merci à vous. Et puis, j'espère que j'aurai donné l'envie de déguster du bon chocolat aux auditeurs. J'espère que le consommateur se rendra compte que le prix est pas forcément un frein lorsqu'on veut manger quelque chose de bon. C'est mon avis.